Bonsoir et bienvenue dans cette émission. En une semaine, la RDC a enregistré plus de 1000 cas de contamination au coronavirus et 15 morts. La raison principale, selon le comité de conjoncture économique du gouvernement, est le non-respect par la population des décisions prises par les autorités telles que le couvre-feu et l'interdiction d'organiser les fêtes et autres manifestations telles que les deuils. Le comité de conjoncture économique du gouvernement, qui se dit très inquiet de la situation, invite la population au respect strict des gestes barrières. Quelle lecture faites-vous de cette situation et que faut-il pour une meilleure application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19? C'est l'objet de l'émission de ce soir et nous resterons. Professeur Jean-Marie Kayembe, il est pneumologue, il est responsable de la prise en charge médicale des cas de COVID-19 en RDC. Bonsoir professeur Jean-Marie Kayembe.
Bonsoir.
Docteur Eugène Nzanzu Sialika, ministre provincial ayant dans ses attributions la santé dans le gouvernement provincial du Nord Kivu. Bonsoir, docteur Eugène Nzanzu Sialika.
Bonsoir.
Et fils Bodo, il est coordonnateur de la société civile et santé du Congo central. Bonsoir, fils Bodo.
Bonsoir, je voulais répéter que je suis le secrétaire exécutif permanent de la société civile santé au Congo central.
Merci et bienvenue une fois de plus dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Comme nous l'avons dit dans les sommaires, en une semaine, la RDC a enregistré plus de 1000 cas de contamination au coronavirus et 15 morts. La raison principale est le non-respect par la population des décisions prises par les autorités telles que le couvre-feu et l'interdiction d'organiser les fêtes et autres manifestations telles que le deuil. Le comité de conjoncture économique du gouvernement, qui s'est dit très inquiet, invite la population au respect strict des gestes et barrières. C'est seulement à ce prix-là que le pays peut réduire le nombre de nouvelles contaminations, affirme-t-il. Suivez Jean-Baudouin Maillot, vice-premier ministre et ministre du budget, dans cet extrait choisi par Daniel Tambinzoni.
Nous sommes au 8 janvier à 19 159 cas contre 18 102 cas une semaine auparavant, ce qui signifie qu'il y a eu augmentation du nombre de cas de plus ou moins 1057 en une semaine. Je crois que c'est beaucoup quand même. Et la population est invitée à respecter les gestes barrières prises par le président de la République, chef de l'État, ainsi que par le gouvernement. Notamment s'abstenir de circuler au-delà de 21h. Et pourquoi cette mesure? C'est pour empêcher les attroupements. Maintenant, les gens contournent en organisant de fêtes la journée. Ce n'est pas bien parce que c'est au cours de ce genre de rencontres, fêtes, deuil, autres veillées, de prières, qu'il y a un fort taux de contamination. Il faudra que les uns et les autres puissent le comprendre pour que nous puissions éviter les désastres. Il y a eu 15 morts en une semaine. C'est beaucoup.
Professeur Jean-Marie Kayembe, je rappelle que vous êtes pneumologue, vous êtes aussi responsable de la prise en charge médicale des cas de COVID-19 en RDC. Cette émission est pédagogique. D'abord, quel est l'élément qui a déclenché cette deuxième vague? Est-ce un développement normal dans les processus d'évolution de toute épidémie ou c'est plutôt des cas qui sont rares?
Il faut avouer une deuxième vague comme elle apparaît. Tous les spécialistes à question, des grands virologues comme Raoul Tamarché, etc., disent leur grand étonnement, leur surprise face à cette évolution aussi rapide. Mais qu'une épidémie, une maladie infectieuse virale surtout, puisse évoluer par vagues, c'est des choses qui se sont déjà rencontrées dans le domaine historique. Je voudrais simplement faire remarquer que tous les scientifiques reconnaissent ici l'intérêt de l'humilité face à un pathogène nouveau qui n'a pas encore fini de livrer finalement tous ses secrets.
Oui, professeur, selon les statistiques de l'INRB d'hier mercredi, 476 nouveaux cas ont été enregistré en RDC et ce serait même les taux les plus élevés depuis le début de la deuxième vague dans ces pays. À travers le monde, on parle en termes des milliers de nouveaux contaminés et des milliers de morts chaque jour. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut expliquer le caractère virulent de cette deuxième vague?
Je voudrais simplement dire, nous remarquons effectivement qu'à ce niveau, lorsqu'on considère la première vague, nous avions contrôlé parce qu'il y avait engagement populaire, il y avait également une certaine discipline dans la communauté. Ce qui explique aujourd'hui, entre autres, le fait de cette deuxième vague qui va si rapidement, c'est notamment le fait d'une sorte de léthargie, découragement dans le chef de la population qui a toujours mal à croire que réellement cette pathologie existe. Elle est restant là et Kinshasa en constitue aujourd'hui totalement l'épicentre pour lequel les mesures aujourd'hui préconisées doivent être rappelées par une sensibilisation régulière ainsi qu'un discours invitant les gens à un changement réel de comportement, envie d'adopter de comportements responsables. Éviter les grands attroupements comme on le demande, comme les mesures barrières le recommandent, comme les autorités du pays l'exigent, est une façon de ralentir le flux de circulation de ce virus. Disons-le bien, c'est l'homme qui est le vecteur, qui transporte le virus d'un point à un autre. Ce n'est pas le virus lui-même qui quitte l'homme pour aller et se propager dans la communauté. Donc, nous sommes responsables face à cette transmission importante.
Et comment...
Je ne terminerai pas sans dire que quand même, on sait aujourd'hui là où les mutations ont été confirmées. Je parle de l'Angleterre, je parle notamment aujourd'hui de la France, de l'Afrique du Sud, etc., parce que des études virologiques l'ont prouvé. Ce nouveau mutant, ou ces nouveaux mutants, parce qu'il n'y en a pas un seul, vous avez appris ce qui se passe au Japon, paraît avoir un pouvoir d'infection, d'immunité beaucoup plus fort également. Ça, ce sont des paramètres qui peuvent expliquer la propagation rapide de cette seconde.
Alors, comment vous expliquez ce que vous appelez léthargie de la population face au respect des mesures barrières pour arrêter, n'est-ce pas, la propagation de la maladie et qui pourtant fait beaucoup de victimes? Comment vous expliquez cette léthargie de la population?
Oui, je me dois à l'humilité de reconnaître que la communication pour ce changement de comportement, la sensibilisation pêche quelque part. Pour ne pas atteindre une population. Il faut des messages, à mon humble avis, des messages ciblés correctement et des messages appelant régulièrement à un comportement responsable. Ceci voudrait dire que ce n'est ni le travail du seul comité multisectoriel de lutte contre, mais c'est tous les leaders d'opinion en général, c'est toute la communauté qui doit se prendre en charge. La Chine, si elle a pu s'en tirer, on apprend aujourd'hui qu'il y a un nouveau cas de décès, le premier depuis plus d'un an, mais la Chine, ce qui lui a permis de contrôler tous ces paramètres et tous ces problèmes, c'est avant tout la discipline de la population. Je pense que nous devions chacun jouer son rôle correctement. Les leaders d'opinion n'est pas se lasser d'informer, de relais communautaires, etc., apporter leur où elle doit aller, et bien sûr, le peuple se rend un temps soit peu plus réceptif. La précision est parmi les mesures importantes, parce que sans le contrôle, vous comprendrez aisément qu'il est extrêmement difficile. Prenons le bel exemple du port des masques. Lorsqu'on est dans un milieu communautaire, ou encore plus frappant aujourd'hui, les deuils. Les morgues deviennent aujourd'hui des endroits en dépit de l'exigence par les autorités qui nous régissent de ne pas acharner les morgues, etc., par des rencontres importantes des gens. Mais quand vous passez dans les hôpitaux, il y a à renforcer la communication à ce niveau-là, à renforcer également la sanction. C'est apparemment le discours qui est intelligent.
Merci, professeur. Nous vous gardons encore dans cette émission. Docteur Eugène Nzanzu Sialika, ministre provincial ayant dans ses attributions la santé dans le gouvernement provincial du Nord Kivu, comment se présente la situation au Nord Kivu en ce qui concerne la lutte contre la deuxième vague de Covid-19?
Bien, merci beaucoup. La situation au Nord Kivu, donc nous notons déjà que les mesures barrières, comme remarquées partout ailleurs, ne sont pas respectées. Et ça fait que nous enregistrons de plus en plus un nombre de malades à nos guichets. Et là, nous précisons que nous avons le guichet surveillance, qui est la surveillance des routines, mais aussi au guichet voyageur. Donc, nous notons de plus en plus un nombre élevé de cas dans la province Nord Kivu. Et là, si toute l'étendue, nous avons 34 zones de santé, mais sur les 34, 23 sont touchées par cette pandémie.
On sait que la province du Nord Kivu a un aéroport international qui est basé à Goma et on sait que la maladie provient des pays étrangers. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait au niveau provincial pour contrôler toutes les personnes qui viennent des pays étrangers?
Les personnes qui viennent des pays étrangers, quand ils arrivent, ils ont l'obligation de présenter un test COVID négatif. Et nous veillons beaucoup sur cela. Et en même temps, localement, nous envisageons déjà dans la semaine qui va suivre, si pas à la fin du mois, de faire le test de tout voyageur venant des pays étrangers vers le Nord Kivu. Mais tous les voyageurs qui sortent du Nord Kivu vers Kinshasa ou les autres pays ont l'obligation de présenter un test COVID voyage négatif, et ça, nous sommes en train de l'observer. Mais nous observons aussi que Goma, avec son aéroport international, tous les voyageurs qui nous viennent des pays voisins, il n'y a que 17% qui, par la suite, peuvent être positifs. Mais l'épicentre de la maladie étant à Kinshasa, nous constatons que environ 35% des malades COVID que nous avons, la plupart ont séjourné dans la capitale de notre pays. En même temps, c'est ici l'occasion de partager avec vous certains résultats des enquêtes. Dans la ville de Goma, en fait, 23% de la population ne croit pas à la maladie. Et les raisons avancées, de ces 23%, 31% a dit, comme nous ne voyons pas des malades, donc nous ne croyons pas. Ces 23% qui ne croient pas disent, nous ne voyons pas des gens mourir, alors nous ne croyons pas. Et d'autres avancent des raisons telles que la pandémie est introduite dans un but lucratif. Donc vous voyez, avec toutes ces idées, la population relâche les mesures barrières. Et c'est ainsi que nous observons, même si nous pouvons avoir des cas importés qui viennent d'ailleurs, mais maintenant, quand ces cas sont détectés au niveau de Goma ou sur l'étendue de la province, les virus circulent parce que nous n'arrivons pas à casser la chaîne de transmission. Pour autant que le quart de la population ne croit pas pratiquement à l'existence de la pandémie.
Est-ce que la province du Nord Kivu était-elle préparée à cette deuxième vague? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui quant à ce qui concerne, n'est-ce pas, la prise en charge des malades? Les hôpitaux ne sont-ils pas débordés?
Non, nos hôpitaux, nos centres de traitement COVID-19 ne sont pas débordés pour l'instant. Laissez-moi vous partager certains chiffres. À date du 13 janvier 2021, depuis le début de la pandémie, la province a déjà enregistré 1300 indicats. Donc nous venons à deuxième position après la ville-province de Kinshasa. Nous avons 1097 guéris, 169 décès, ce qui est un taux de létalité élevé au pays. Nous avons rapatrié 11 malades et là nous avons 33 malades actifs.
Merci, docteur Eugène Nzanzu Sialika, fils Bodo. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de la société civile santé du Congo central. La province du Congo central enregistre aussi beaucoup de cas de coronavirus. Le virus est en train de circuler dans cette province de façon inquiétante. Et vous l'expliquez par quoi, monsieur fils Bodo? Fils Bodo, apparemment, fils Bodo n'est pas là. On va essayer de les rappeler. Et professeur Jean-Marie Kayembe, vous venez de suivre le ministre provincial de la Santé du gouvernement provincial du Nord Kivu, docteur Eugène Nzanzou, qui a évoqué certains chiffres. Il parle des 23% des personnes qui sont sceptiques et qui ne croient pas à l'existence de la maladie parce qu'ils ne voient pas, n'est-ce pas, les personnes qui tombent malades, les personnes qui meurent. Vous avez aussi évoqué cette faillite, n'est-ce pas, cette lacune dans la communication. Vous ne pensez pas qu'il faille utiliser des méthodes radicales telles que la coercition, comme cela a été fait dans certains pays, notamment la Chine, ou alors jouer sur des symboles forts, hein, des symboles qui retiennent l'attention, en montrant par exemple les images des hôpitaux qui accueillent les malades, ou même montrer les malades sur leur lit d'hôpitaux, tout en cachant, n'est-ce pas, leur visage. Et peut-être que cela pourrait pousser certaines personnes encore sceptiques à pouvoir se rendre à l'évidence que la maladie est réelle et dangereuse.
C'est une évidence que nous devons renforcer la sensibilisation et la communication dans le sens de faire adopter un changement de mentalité et un changement de comportement. Les anthroposociologues sont les premiers à nous faire remarquer que ce type de combat en est un de très longue haleine. Et de longue haleine ne signifie pas un combat impossible à gagner, mais c'est ensemble. Et non en laissant toute la tâche uniquement à ceux qui nous dirigent, ni au comité multisectoriel de la riposte, en lui laissant à lui tout seul la tâche d'accomplir cette mission qui n'est pas des plus simples. Je pense que c'est ensemble, en regardant ce qui se passe. C'est vrai, on a utilisé de temps en temps la présentation de certains patients via les médias, à travers les hôpitaux, etc., pour voir que réellement la pathologie existe. Mais lorsqu'on donne au jour le jour, notamment, les chiffres, le taux de létalité, la courbe épidémiologique du jour, en reconnaissant tout de même que nous avons une estimation qui est faible, une exécution très faible du visage des malades. Les chiffres rendus sont loin de traduire la réalité, étant donné qu'il faut investir et investir beaucoup plus de moyens encore dans le dépistage, etc. Nous ne nous décourageons pas. Nous ne sommes pas non plus semeurs de panique. La situation est sérieuse. Ne croyez quand même pas que c'est de gaieté de cœur qu'aujourd'hui, nos enfants à l'école primaire, les étudiants universitaires en ont d'ailleurs un ras-le-bol. Et certains malades sont là en train de développer des pressions nerveuses, etc., de commerce qui est pratiquement tout à fait difficilement pratiquée en ce moment, la population qui accumule et qui vit une situation au-delà du drame acceptable. Ensemble qu'il faut, avec des efforts de mitigation, des effets collatéraux qui accompagnent cette pathologie, qui nous apprend tous à être humbles, mais à échanger l'expérience. Nous apprenons toujours et tout le temps des autres. Nous prendrons les mesures qui semblent avoir mieux marché ailleurs en les adaptant à notre contexte et à notre cadre. J'insiste sur le caractère d'être unis, d'être ensemble pour lutter contre le chef de l'État, l'a si bien dit, un ennemi invisible mais qui est en train de causer des ravages importants dans notre population. C'est ensemble et unis que nous réussirons à bouter dehors cette pandémie du Covid-19.
Merci, professeur. Fils Bodo, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, je vous suis.
Voilà, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la Société Civile Santé du Congo central. Hein. Je disais tout à l'heure que la province du Congo central enregistre beaucoup de cas de coronavirus. Le virus est en train de circuler de façon inquiétante dans cette province. Vous attribuez cela à quoi?
Merci. Par rapport à cette question, il y a deux faces que je pouvais épingler. La première face, c'est d'abord la non-appropriation de la riposte par la population du Congo central. Et il faudrait noter aussi que cette faible appropriation est due
Déjà dès le départ, la communication avait failli lorsque la province avait notifié déjà les deux premiers cas l'année passée. Et donc, il y avait un problème de la bonne information qu'on devait donner à la population pour que cette population puisse adhérer directement dans cette riposte. Mais aussi, l'autre facette, c'est qu'au niveau provincial, il faudrait noter aussi qu'il y a le faible accompagnement des mesures qui sont prises au niveau national. Je voudrais ici faire allusion déjà à les derniers messages du chef de l'État par rapport à cette deuxième vague de la COVID. Si vous venez à Matadi, par exemple, vous allez voir une proportion importante de la population qui ne respecte pas les gestes barrières, notamment même le port des masques. Vous allez vous rendre compte que là où on a interdit les regroupements dans les morgues, vous verrez toujours qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans nos morgues au niveau de la province. Et aussi au-delà des morgues, nous voyons un peu dans les transports en commun, dans les marchés et partout dans les terrains de football, nous voyons les jeunes comment ils se regroupent pour jouer au foot. Et ça, c'est au vu et aussi des autorités et de la province. Vous savez, lorsqu'on doit faire la sensibilisation, nous sommes de la société civile, nous sommes efficacement impliqués dans la riposte. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a une personne qui peut se dire qu'il ne connaît pas la COVID. Il n'y a pas une personne qui peut se dire qu'il ne maîtrise pas les modes ou les signes de la COVID. Il n'y a pas une personne qui peut se dire que je ne connais pas comment il faut se prévenir de la COVID. Mais toutes les mesures qui sont prises ne sont pas accompagnées des mesures de restriction. Vous voyez, par exemple, lorsque déjà les autorités doutent déjà de la maladie, à combien plus fortes raisons que la population qui doit adhérer dans cette riposte va aussi suivre ces comportements qu'une autorité est en train d'afficher. Donc ça, c'est un problème qui dérange et qu'il faut qu'aujourd'hui nous puissions connaître les problèmes que nous avions. Et on a eu à décrier tout ça au cours des différentes réunions qui se tiennent au niveau provincial, évidemment par rapport à la coordination de la riposte. Nous pensons que pour arriver, il faudrait qu'il y ait à un certain niveau des sanctions qui doivent réserver à tout celui qui ne va pas respecter le geste barrière. Et là, je pense que lorsque le chef de l'État invite les autorités provinciales à s'impliquer et à faire respecter toutes les décisions qui sont prises pour réduire tant soit peu la propagation de la maladie, il faudrait qu'à un moment donné qu'il y ait un travail de suivi qui prouve que les autorités au niveau provincial aident le chef de l'État pour arriver à lutter ou à riposter contre cette maladie. Mais aussi au niveau provincial, l'autorité provinciale doit également à son tour répercuter le message auprès des autorités, des entités territoriales. Je vois le maire de la ville, je vois les chefs des secteurs, les administrateurs du territoire, les bourgmestres, voire même jusqu'au niveau des chefs d'avenue, des cellules ou des quartiers. Et donc ils doivent aussi être là pour aider. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Vous verrez qu'il y a même des autorités qui cohabitent avec la population sans même porter les masques. Et donc, jour et nuit, vous savez, ça décourage ceux qui sont impliqués dans la riposte. Et donc, tout ça, ça doit nous amener à ce stade où nous sommes, où la province est maintenant encore de nouveau deuxième, parce qu'avec la deuxième vague, les résultats que nous avions aujourd'hui, c'est presque déjà le double de la première vague.
Fils Bodo,
il y a au moins 6 mois, mais dans 2 mois, voici ce que nous avions comme résultat.
Fils Bodo, vous soulignez là les faibles accompagnements des mesures édictées par les chefs de l'État. On constate, n'est-ce pas, une sorte de contradiction à travers les pays. C'est l'État, n'est-ce pas, qui édicte des mesures, mais c'est les éléments de l'État qui apparemment encourage la population à ne pas se conformer à ces mesures. Et on apprend qu'il y a même des bourgmestres, n'est-ce pas, qui permettent que lorsqu'il y a des cérémonies de mariage, qu'il y ait des rassemblements de plus de 10 personnes. Comment vous comprenez cette contradiction au sein de l'État qui édicte des mesures, mais les mêmes éléments de l'État qui devaient prêcher par l'exemple ne les font pas?
Oui, moi je pense qu'il faudrait encore un travail qui doit se faire. On doit se mettre encore autour d'une table. Lorsque je parle autour d'une table, je vois comment le secteur, par exemple, de la santé est organisé. Donc, dans la tripartite de la santé, nous avions le gouvernement à travers le ministère qui donne des orientations. Nous avions les partenaires au développement qui apportent le soutien au gouvernement et la population qui est les bénéficiaires des interventions du gouvernement et des partenaires. Et donc, vous allez remarquer que Et si aujourd'hui toutes les mesures qui sont prises ne sont pas respectées, d'abord que lorsque ces décisions sont prises, parfois on n'informe pas ceux qui sont censés aussi faire la vulgarisation de ces messages. Lorsque le chef de l'État a pris les mesures de pouvoir, par exemple, concéder à la fermeture en d'une manière anticipée des écoles, je pense qu'il n'y avait pas une étude préalable qui était faite pour que déjà en avance qu'on puisse alerter la population. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, on renvoie nos enfants à la maison. Et vous savez déjà que l'année passée, l'éducation de nos enfants a été hypothéquée. Et cette année, déjà, avec la vie, nous vont les choses, nous risquerons encore de connaître les problèmes de l'année passée. Mais ces enfants-là qui sont restés à la maison ne sont pas toujours bien encadrés. Vous verrez, ces enfants sont tous les dimanches dans les églises, en train de chanter, parce qu'ils sont choristes dans les épreuves de dimanche. Nous voyons nos enfants, ils sont là, sans masque, sans le respect de la distanciation. Vous verrez ces enfants en train de jouer dans les terrains de foot. Vous verrez ces enfants dans les marchés avec les adultes. Vous comprenez, un enfant d'abord, c'est un être vulnérable. Lorsqu'il est dans le milieu comme le marché, il ne sait même pas dire à quelqu'un
merci
qui parle devant lui que non, je dois fuir, ou bien papa tu parles, ou bien maman tu parles devant moi, tu n'as pas le masque. Vous voyez toutes ces contradictions-là, ça ne va pas aider la réponse à pouvoir bien fonctionner.
Merci, Fritz Baudot. Nous allons vous redonner la parole dans la deuxième partie de l'émission. Professeur Jean-Marie Kayembe, les auditeurs ont aussi donné leur point de vue par rapport à ces sujets. Vous allez réagir à cette réflexion qui vient de Goma au Nord Kivu.
Patienter quitte depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Je pense que le gouvernement a aussi une part de responsabilité car il continue à organiser des séances diverses alors que selon les mesures édictées par l'équipe de riposte, il y avait l'interdiction de tout attroupement de plus de 10 personnes, mais dommage, nous avons assisté à plusieurs séances de parlementaires, notamment lors de la déchéance du bureau Mabunda. Le président Félix a aussi rassemblé plus de 200 personnes qui ne respectaient même pas les mesures barrières à la COVID lorsqu'il expliquait sa vision aux parlementaires. Bref, quand ceux qui sont censés donner des bonnes leçons à la population n'en donnent pas, comment voulez-vous que la population puisse respecter les mesures barrières? À définitive, les mesures barrières devraient s'appliquer à tous et sans exception, car les lieux de culte, les marchés, les boîtes de nuit continuent à exercer leurs activités à la normale. Que les mesures barrières s'appliquent à tous et sans exception.
Professeur Jean-Marie Kayembe, c'est toujours cette contradiction, n'est-ce pas, qui est dénoncée. L'État édicte des mesures, mais les mêmes agents de l'État sont les premiers, n'est-ce pas, à ne pas se conformer à ces mesures.
Je suis parmi ceux qui pensent que nous sommes tous égaux devant la maladie, autant que nous le sommes devant la loi et encore davantage devant la mort. Je voudrais simplement dire que la vie sociétale a parfois des exigences. Et parmi ces exigences, nous sommes dans un tournant au niveau de notre pays qui nécessite d'éviter une léthargie, une paralysie totale d'institutions. Je voudrais surtout penser, lorsque l'exigent les circonstances du moment, il peut arriver qu'il y ait obligatoirement à réunir un petit peu plus de gens. Citons l'exemple du Parlement, puisque c'est celui-là qui est cité en ce moment. Mais je sais, erreur de ma part, que les dispositions sont habituellement prises pour que la salle soit en premier lieu désinfectée avant de réunir autant de monde, et surtout que les mesures de distanciation, complétées par le port masque dans un espace clos et fermé, parce que le Parlement ce n'est pas à ciel ouvert, comme à l'époque de la Grèce antique, et ces conditions peuvent mitiger, diminuer, réduire le risque. Je ne voudrais pas dire que là, c'est une attitude qu'il faille applaudir de deux mains absolument. Mais j'insiste sur les exigences sociétales qui font que certaines décisions, certaines choses, doivent absolument évoluer d'une certaine mesure. Mais la communication, comme nous le disions, responsable, est celle qui fera comprendre à tout le monde que nous devons nous mettre ensemble. Nous devons appliquer le mieux possible les mesures barrières. Nous devons avoir l'information concernant tous les pays. Parce que notre pays est une mosaïque de cultures, etc. Les spécificités de Goma ne seront certainement pas forcément les spécificités à appliquer dans une mégapole comme Kinshasa ou Matadi, etc. C'est pour ça qu'il est important, et je félicite le Nord Kivu, j'ai entendu qu'il y avait des enquêtes sociétales qui avaient été menées. Nous en avons à Kinshasa, à l'école de santé publique, je salue le directeur de l'école, le professeur Désiré Machinda, parce que ces études méritent aujourd'hui évaluation pour nous permettre d'adapter à l'heure actuelle un discours qui puisse attraper, rejoindre, toucher le cœur de plus de personnes possibles en vue d'un changement réel de mentalité et de comportement.
Professeur Jean-Marie Kayembe, que faut-il pour une meilleure application des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la COVID-19? Vous avez suggéré, n'est-ce pas, l'amélioration de la communication et aussi associer tout le monde dans cette lutte contre la COVID-19. À part ces deux facteurs, ces deux éléments, qu'est-ce que vous proposez encore pour lutter efficacement contre cette maladie?
Je propose de manière tout à fait évidente qu'il y ait un renforcement de la surveillance. La surveillance pour accompagner ces mesures. Tous les interlocuteurs jusqu'à présent insistent sur l'application timide de ces mesures par la population. Mais lorsqu'il existe une sanction, c'est ce qui est fait dans le monde entier, ne n'est absolument rien. Si la discipline a pu sauver la Chine, nous savons tous que c'est parmi les pays les plus disciplinés, les plus coercitifs possibles, sans vouloir plaider seulement pour la coercition, mais à un certain moment, une certaine dose est exigible lorsque on rencontre un mur qui reçoit un écho et vous le renvoie en plein visage sans pouvoir pénétrer les individus et permettre de se comporter correctement. Il faut renforcer absolument la surveillance. Et elle appelle certainement pour ceux qui enseignent les règlements, etc., que l'on recoute simplement à la sanction.
Merci. Docteur Eugène Nzanzu Sialika, vous allez aussi réagir à ces commentaires qui viennent de Bukavu, au sud Kivu.
André Kayembe Tabaro, depuis la ville de Bukavu, au sud Kivu. En lieu et place d'interdire à la population certaines pratiques pour lutter contre la COVID-19, il serait mieux de les apprendre comment vivre avec cette maladie, car on a connu le début de la maladie, mais on ne sait pas à quand elle prendra fin. Ensuite, il faudra savoir que le Congolais n'a pas l'habitude de faire ce qu'on lui demande de faire, et fait souvent ce qu'on lui interdit de faire. Donc, si les autorités ne tirent pas attention, nous risquons de souffrir les affres de cette maladie en lieu et place des conséquences de la maladie elle-même.
Monsieur le ministre Eugène Nzanzu Sialika.
Sialita, s'il vous plaît, c'était à Sialita.
À Sialita, ok. Merci beaucoup pour la
nous
réaction.
Nous comprenons la préoccupation du compatriote de Sud Kivu, mais c'est ce que nous disons. En fait, le premier confinement et les mesures édictées le 15 décembre ne sont pas pareilles. C'est-à-dire, nous comprenons que nous devons vivre avec la maladie, mais tout en vivant avec la maladie, nous devrions respecter les mesures barrières. Que les commerces ne sont pas fermés, les avions volent, les hôpitaux ils fonctionnent, sauf les écoles et les universités où on a mis un peu de break. Mais toutes les activités, nous les réalisons, mais il nous est recommandé de les réaliser en respectant effectivement les mesures barrières. Et le point n'est besoin peut-être ici de les rappeler. Mais si nous observons ce qui se passe dans les moyens de transport, on est nombreux, personne ne porte le masque. Peut-être dans les milieux reculés où on se déplace sur moto, à peine le motard et son client porteraient le masque. Même dans les églises, nous voyons que les mesures ne sont pas respectées.
Et à votre avis,
que nous allons vivre avec la COVID, mais nous devons nous protéger. Et évidemment, protéger les personnes vulnérables. Parce que là aussi, il y a un accent qui doit y être mis, surtout les personnes vivant avec les comorbidités, les malades diabétiques, les malades avec hypertension, les malades rénaux et tous les autres. Nous constatons que c'est dans leur lot que nous avons plus de malades qui n'arrivent pas à s'en sortir une fois
ils attrapent la COVID-19.
Voilà, et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut pour une meilleure application des mesures prises par les gouvernements pour lutter contre cette maladie? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter aux propositions faites par le professeur Jean-Marie Kayembe? Il a parlé d'amélioration, n'est-ce pas, de la communication, d'associer tout le monde dans la lutte. Il a mis un accent sur le renforcement de la surveillance. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter, docteur Eugène Nzanzu Sialita?
Bien, nous pouvons ajouter que nous pouvons continuer toujours à communiquer en insistant sur un fait. 80% des malades COVID-19 n'ont pas de signes. Et c'est là toute la complexité de la maladie ou dans la gestion de cette pandémie. Les gens ne croient pas parce qu'ils ne voient pas de malades visiblement. Alors que les malades sont là, quand ils veulent se déplacer, il n'est même pas malade à ce moment, il vient pour son test parce qu'il veut voyager. Et vous le testez, il est positif. Lui-même ne croit pas, il dit, mais je n'ai aucun mal, comment vous dites que moi j'ai la maladie? Alors, c'est cette notion-là que nous vulgarisons pour que toute la population comprenne que celui qui est en face de vous, il ne faut pas faire confiance parce que vous ne savez pas s'il porte le virus et il peut vous contaminer. D'où l'obligation, en tout cas, de respecter les mesures barrières. Peut-être qu'il faut arriver à la constitution pour que la population comprenne que nous sommes en face d'un ennemi que tous nous allons juguler ensemble, c'est-à-dire individuellement et puis collectivement.
Merci beaucoup, docteur Eugène. Fils Bodo, vous allez réagir aussi à cette réflexion qui vient de Isangi.
Gaston Bilambo depuis Isangi, province de la Tchopo. Tout ce qui fait que les mesures prises par les autorités pour faire face à cette pandémie ne soient pas totalement respectées, c'est d'abord, un, les conditions actuelles de vie que mènent les Congolais. Ensuite, la manière dont les acteurs politiques se réunissent pour des faits qui ne profitent presque pas au peuple, pendant que ce sont eux qui devraient servir d'exemple. Voilà ce que moi je pense qu'il devrait être à la base des doutes sur la vraie existence de la deuxième vague de la COVID-19, surtout sur le citoyen du Congo profond. Ainsi donc, j'ose espérer que si les autorités compétentes parvenaient à mettre en place d'autres mesures qui pouvaient apprendre à la population à vivre avec le coronavirus et renforcer surtout la sensibilisation, cela pourra non seulement réduire les taux de contamination, mais encore enlever certaines zones d'ombre sur la population congolaise.
Fils Bodo, votre réaction?
Merci, je crois que j'avais déjà dit au départ que la population suit seulement ce que le maître fait. Et le maître ici, c'est l'État. L'État, c'est à travers les autorités. Donc, lorsque la population ne respecte pas les différentes mesures prises pour faire face à cette riposte, et donc, déjà, à un certain niveau, l'erreur ou la faute est au niveau des autorités. J'ai dit tantôt au Congo central, vous pouvez sillonner, vous trouverez des autorités plus juste là, eux-mêmes ne savent pas vraiment amener la population à l'appropriation de la riposte de cette maladie. Pourquoi? Parce qu'elles-mêmes ne croient pas à l'existence de la maladie. Vous imaginez si une autorité pose une question comme ça à la population, est-ce que malade est en Italie? Vous comprenez, c'est déjà un problème. Et donc, entre la population et l'autorité, qui doit donner l'information à l'autre. Et donc ça, c'est déjà une barrière qu'il faut que nous puissions avoir des problèmes par rapport à la riposte contre la COVID. Ce matin même, en allant au bureau, vous savez que dans un carrefour, on m'a vu avec le masque, j'étais avec la moto, on me dit, mais monsieur, juste aujourd'hui, toi, tu crois toujours à la COVID.
Fils Bodo,
oui,
pour une meilleure application des mesures prises par le gouvernement congolais, le professeur Jean-Marie Kayembe a parlé d'amélioration de la communication, d'associer tout le monde, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette maladie. Il a insisté sur le renforcement de la surveillance. Et docteur Eugène Nzanzu Sialita, ministre provincial de la Santé du Nord Kivu, a relevé un point important. Hein. Il parle de 89% des malades qui sont asymptomatiques. Et donc, il estime qu'il faut insister sur le fait que les gens doivent se méfier de tout le monde. Et qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter comme proposition pour amener la population à pouvoir se conformer aux mesures prises par le gouvernement pour lutter contre cette maladie?
Ce que je t'ai proposé, je pense que c'est comme j'avais dit au départ, il faudrait qu'on puisse d'abord nous mettre de nouveau autour d'une table, parce que le discours qui doit être fait maintenant là, c'est un discours qui doit frapper le cœur de tout le monde. Je crois qu'il y a un des intervenants qui avait déjà parlé sur ça. Aujourd'hui, le chef de l'État a parlé, mais vous sentez sur le terrain, c'est comme si il n'y a rien. Vous comprenez? Lorsque vous donnez un message à la population et que la population ne semble pas prendre ça à cœur, ça fait mal. Maintenant, nous devons repartir à zéro pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même par rapport, par exemple, à la fermeture des écoles, ainsi de suite. Aujourd'hui, nos enfants sont à la maison, mais on peut se dire, est-ce qu'il y a un rapport que le gouvernement congolais peut brandir aujourd'hui pour dire, nous avons fermé des écoles parce qu'il y a eu telle proportion de transmission de la COVID en milieu scolaire. Je ne pense pas qu'il y a un tel document déjà qu'on peut brandir. Donc tout ça, on doit maintenant se mettre autour d'une table pour voir maintenant comment il faut corriger les erreurs et venir avec un message qui peut captiver tout le monde et mettre tout le monde à l'aise et d'adhérer à la riposte. Et même par rapport à la surveillance, je pense que, comme vous avez dit tantôt, la maladie se présente soit avec ou sans signes. Et donc, chacun ne doit pas faire confiance à celui qui est à côté de lui, sinon alors vous risquerez d'être contaminé et que vous allez encore exposer les autres personnes.
Merci, professeur Jean-Marie Kayembe. Nous sommes à la fin de l'émission. En guise de conclusion, quel est le message que vous pouvez adresser à toute la population congolaise pour qu'elle puisse, elle aussi, s'impliquer, n'est-ce pas, dans la lutte contre cette maladie, la COVID-19?
Oui, je ne veux nullement être fataliste. Mais j'ai envie de dire, sans être ici pasteur, que les pasteurs ne m'en veuillent surtout pas, aimons tous les uns les autres et aimons notre pays. S'agissant de cette pathologie qui est une pathologie nouvelle, il est important de savoir que les indicateurs peuvent nous montrer si nous allons vers le bon ou si plutôt nous sommes en train de faire du surplace. Il y a notamment la prévalence ou l'importance de l'infection dans la communauté. Mes amis, avec moi tout à l'heure, relevaient le fait de plus de 85% des sujets infectés, mais qui ne prennent aucun signe et peuvent transmettre la maladie. Il y a bien sûr la fréquence de ces rencontres avec plusieurs personnes des agglomérations, fréquence de participation à des deuils, à des mariages, à l'église, etc., les veillées mortuaires. La fréquence et la durée du contact sont des facteurs péjoratifs quant à la transmission de la maladie. Il est important, et c'est vrai, que nous puissions échanger les expériences entre provinces et avec d'autres pays. Il est important que nous puissions renforcer, améliorer la communication dans le sens d'atteindre les cœurs les moins sensibilisés en ce moment. Il est important que ce soit une histoire portée par toute la communauté, pas par un groupe qui se sentirait privilégié par on ne sait quel bagage magique. C'est ensemble que nous pouvons tacler cette pathologie, cette pandémie qui touche le monde entier. Ensemble, nous apprendrons à vivre avec solidarité.
Merci, professeur Jean-Marie Kayembe. Docteur Eugène Nzanzu Sialita, un message, en guise de conclusion, un message à l'endroit des populations du Nord Kivu afin qu'elles puissent aussi, n'est-ce pas, adhérer à cette lutte contre cette pandémie, cette deuxième vague de COVID-19.
Le message, c'est que la COVID-19 existe, que la population croit que cette pathologie existe et que maintenant nous puissions nous engager, nos communautés, nos populations, d'abord individuellement, parce que quand je me protège moi-même, je protège l'autre. Et si l'autre se protège, donc nous protégeons toute la communauté. Et ensemble, nous allons vaincre cette pandémie.
Merci beaucoup, fils Bodo. Un message en guise de conclusion à l'endroit, n'est-ce pas, des populations du Congo central pour qu'elles puissent respecter les mesures édictées par le gouvernement congolais.
Merci, je pense que ce que je pouvais dire à la population du Congo central, que la pandémie est bel et bien dans la province. Aujourd'hui, il faut noter qu'il y a quatre grandes villes qui sont touchées. Il y a Matadi, il y a Boma, il y a Mwanda, il y a Kipete, Mbanzangoum, qui sont comme des villes qui présentent ce que nous appelons l'épicentre de la maladie au niveau de la province. Et donc,
nous devons tous nous mobiliser pour riposter contre cette maladie en respectant les gestes barrières et bien entendu aussi, il faudrait aussi chacun puisse faire la surveillance partout il est en cas de signes, en cas d'un comportement inhabituel dans le corps, rendez-vous dans un centre de santé le plus proche, ça sera quand même important pour une prise en charge adéquate.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Polydor Basnouna qui était à la technique. Et merci à Kéline Kouté et Dona Madimba qui ont réalisé cette émission sous la supervision d'Axel Goncho à la présentation Guy Maté. Respectons les gestes et barrières en sachant que la maladie existe effectivement. Merci et bon suite au programme sur Radio Capi.